foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Charles Gioli, vous êtes ingénieur, vous êtes passé de la physique à l'art numérique. Et je vous remercie vraiment d'être revenu parce que nous nous étions déjà écoutés, entendus. Nous avions dialogué le 25 mai lors d'un premier enregistrement. Mais l'émission est trop courte. Je rappelle pour les auditeurs qui nous prendraient en cours de route que cette émission du 25 mai, nous pouvons la réécouter, la podcaster et éventuellement me contacter pour que j'envoie le lien. L'objectif de cette émission, ma foi, j'y crois, c'est d'ouvrir sur nos croyances, sur nos doutes, sur nos convictions. Et qui serait plus qualifié que vous, Charles? Vous êtes ingénieur, vous êtes passé de la physique à l'art numérique et vous êtes peintre. Vous avez fait deux conversions dans votre vie. On ne va pas résumer, bien sûr, la première édition, mais merci d'être venu.
Écoutez, merci de m'inviter une deuxième fois. C'est vrai que lors du premier entretien, on avait terminé un peu en vitesse, vous m'interrogiez sur Dieu. Évidemment, Dieu, c'est pas facile. Et j'ai terminé un peu sur une boutade en rappelant une citation de Maurice Bellet qui disait « La seule certitude que nous avions sur Dieu, c'est que c'est un mot français de quatre lettres. »
Donc, et vous êtes, d'une certaine manière, incroyant dans un certain nombre de dogmes chrétiens ou d'autres religions, mais vous êtes taraudé par cette question du sens de la vie, de la beauté, du hasard, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Vous aviez d'ailleurs aussi cité le père Michel Dagra. Je trouve que c'est bien de commencer cette émission en nous rappelant l'humilité.
Ce qui m'a frappé chez Michel Dagra, les quelques fois où je l'ai entendu parler, c'est son insistance sur la gratuité. Gratuité dont il parlait quand son domaine de prédilection, c'était la doctrine sociale de l'Église. Et il parlait de la beauté et de l'intérêt de la gratuité, que finalement tous les actes qui valaient la peine, qui nous rendaient heureux, c'était des actes gratuits. Et j'avais trouvé ça très beau. Et il parlait également de la vie qui était qu'on devait considérer comme un cadeau.
Alors, rappelez-nous rapidement, effectivement, votre itinéraire de recherche au CNRS, puis vos travaux sur la physique et comment vous avez eu le plaisir de partager les mathématiques à des élèves ingénieurs avant de partir dans cette aventure qu'est la peinture.
Oui, alors on reprend un peu ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est-à-dire que oui, j'étais parti, j'ai fait des études d'ingénieur, et je me suis intéressé à la physique, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ces études d'ingénieur, mais par ailleurs, je m'intéressais beaucoup à la peinture, et à un moment de ma vie, non pas que je me désintéresse de la physique, mais j'ai eu envie de tenter ma chance dans cette voie qui m'attirait, la peinture. Et puis, je n'ai jamais regretté. Dès l'âge de 23 ou 24 ans, j'ai commencé à peindre. Et ça a été mon métier jusqu'à maintenant. Et au cours des 10 ou 15 dernières années, j'ai un petit peu évolué, puisque maintenant, j'utilise l'ordinateur et je fais ce qu'on appelle de l'art numérique. J'écris des programmes qui créent des images.
C'est votre métier,
votre activité. Pas loin de 40 ans maintenant.
Et la métaphysique alors?
Et la métaphysique, c'est ce qui m'avait poussé vers la physique.
Le mystère des atomes.
Déjà au départ, d'essayer de comprendre le monde. Et puis la peinture, c'est un peu la même chose, c'est d'essayer de comprendre le monde par des voies différentes. Et d'essayer de... Pour un artiste, c'est pas par l'intellect qu'on comprend le monde, mais c'est par la sensibilité. Et on est toujours à la recherche de mettre en image ou en forme une impression qu'on a, et on voudrait partager l'expérience qu'on a du monde. J'ai la sensation, comme sans doute la plupart d'entre nous, que la façon dont je vois le monde m'est extrêmement personnelle. Et j'ai besoin d'une part pour moi de l'exprimer, de lui donner forme, parce que dans mon esprit, c'est quand même quelque chose d'assez vague. Il n'y a qu'en lui donnant forme que les choses se précisent, et puis de le faire partager aux autres, évidemment.
Il y a l'harmonie des couleurs. Nous évoquons la beauté du monde ou la beauté d'un tableau, mais en même temps ce mystère. Et alors, votre seconde conversion, c'est justement d'être passé d'une peinture concrète qui représente un paysage ou un visage à une peinture que j'appellerais abstraite, pour faire vite.
Oui, alors c'est vrai que certaines de mes œuvres représentent quelque chose, d'autres sont purement abstraites. Je n'ai pas vraiment fait de choix, je passe de l'un à l'autre régulièrement. Dans les œuvres abstraites, ce qui me fascine toujours, c'est de voir à quel point le fait de voir des couleurs et des lignes et des formes peut produire sur l'être humain qui les regarde des impressions extrêmement fortes, changer l'humeur de quelqu'un. Entrer dans un rythme, entrer dans un autre monde par le simple fait de voir une forme. Et ça, je trouve ça fascinant. Dans les œuvres plus figuratives, c'est différent. J'essaye de témoigner de ce qui se passe dans mon esprit lorsque je réfléchis, lorsque je rêve. Donc ça a un côté un petit peu plus descriptif.
Mais on a un exemple, puisque pour matérialiser ce dialogue sur le site de Radio Présence, on a l'une de vos œuvres qui fait partie d'une série qui s'appelle « L'œuvre sans fin ». C'est sans fin la recherche de l'image, du tableau qui va représenter une partie de vous-même.
Alors cette œuvre-là qui est en exergue là sur le site, ça fait partie d'une série qui s'appelle L'œuvre sans fin. C'est une œuvre numérique. Et le principe, en fait, c'est que y a un tas d'éléments dans cette peinture. Non, ce n'est pas une peinture puisque c'est numérique. Il y a des personnages, il y a des formes géométriques, il y a des écritures. Et tous ces éléments sont agencés par l'ordinateur de façon largement aléatoire, pas entièrement, mais largement aléatoire. Et je vois sur l'écran, au fur et à mesure que le programme tourne, je vois les images se superposer, les éléments s'ajouter les uns aux autres, et si bien que je peux des éléments anciens s'effacer, ce qui bien que je peux regarder cette œuvre se construire sans fin. Elle ne repassera jamais par le même état, et je l'arrête quand il y a un état qui correspond à un petit peu à ce que quelque chose qui m'interpelle. Et lorsque j'arrête un état comme ça, je peux l'enregistrer et le faire imprimer. Et c'est le cas c'est des estampes numériques.
Je dirais ça, c'est le côté pile. Vous êtes créateur d'une œuvre d'art. Vous offrez à voir. Mais le côté face, si on peut perdre... ou si je peux parler comme ça, c'est celui qui va vous regarder et qui doit interpréter. Et c'est là où moi qui suis sociologue du fait religieux ou des représentations, je m'interroge sur ce qu'il y a de sacré peut-être dans telle œuvre, puisque nous savons que Hitler a détruit des œuvres qu'il considérait comme entartet, dégénérées, l'art dégénéré, qui n'avait pas le droit d'exister dans une dictature. Mais en même temps, une œuvre d'art, c'est d'une certaine manière sacré parce que ça vous représente dans votre intimité. Le problème, pour moi, c'est qu'il faut l'interpréter. Et on en revient à la seconde partie de notre entretien, qui sera ces livres dits révélés, ces livres dits sacrés, il faut les interpréter et ils ne nous tombent pas dessus comme ça. Nous sommes déjà partis dans l'exégèse de l'œuvre d'art. Alors, oui, le regard du spectateur. Il y aurait trois ou quatre personnes qui vont admirer ou contempler le tableau. Il y aura plusieurs manières de dialoguer à partir du tableau.
Ça, effectivement, c'est un problème pour tous les artistes, parce que autant l'artiste sait, et encore, c'est à peu près ce qu'il met dans son œuvre, mais il ne sait jamais ce que les autres en perçoivent. Et c'est quelque chose qui est assez démoralisant d'ailleurs, parce que quelquefois on fait des efforts pour, pour, pour mettre en forme quelque chose qu'on a dans l'esprit. Et puis les gens voient tout à fait autre chose. Alors, c'est ça. Alors, est-ce que la vérité, est-ce que ce qu'on a fait correspond inconsciemment à quelque chose qu'on voulait exprimer et qu'on a exprimé malgré nous? Ou est-ce qu'on s'est mal exprimé, tout simplement, et que les gens ont vu autre chose? Moi, par exemple, il m'arrive d'être assez déprimé, enfin, assez me sentir mal, et puis de peindre et d'essayer de mettre sur le tableau ce que je ressens à ce moment-là. Et puis, et certaines fois, j'y arrive. Je me dis, voilà, je me sens exactement comme ça. Et puis, quelquefois, quelques temps plus tard, je veux dire, des gens voient mon tableau et me disent, bah, ce qui est formidable avec vous, c'est cette joie qu'on sent, ce bonheur qui irradie de vos œuvres. Alors, je ne sais pas quoi penser.
Et justement, tout d'un coup, je vous sentais pessimiste et je disais, mais c'est ça qui est formidable, c'est cette liberté, cette gratuité, cette recherche de la vérité et du sens. Et je vous remercie beaucoup parce que vous avez apporté un poème de Leonard Cohen qui va nous permettre de repartir dans ce débat de l'interprétation, puisque l'anglais, lorsqu'il va être traduit, de la même manière que peut-être des textes comme la Bible ou le Coran, va nous amener à dialoguer. Nous n'aurons pas une vérité sur cette poésie de Leonard Cohen. Nous l'écoutons.
If it be your will that I speak no more and my voice be still as it was before, I will speak no more. I shall abide until I am spoken for. If it be your will, if it be your will, let a voice be true from this broken hill. I will sing to you from this broken hill. All your praises they shall ring. If it be your will to let me sing.
Thank you. it be your will, if it be your will.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et ce soir, avec Charles Gigioli, excusez-moi Charles, j'ai du mal à dire votre prénom. Vous avez choisi cette poésie, cette musique de Leonard Cohen. Vous nous la traduisez pour ceux qui ne sont pas anglicistes.
Je ne vais pas tout vous traduire, mais les premiers mots, if it be your will.
Si c'est ta volonté.
Si c'est ta volonté, donc il s'adresse à Dieu, c'est une prière. C'est un texte qu'il a écrit quelques mois avant de mourir. Et c'est un peu alors ça peut être interprété comme le texte d'un homme qui va mourir et qui s'en remet à Dieu. Ça n'est pas un texte fataliste. Il s'en remet à Dieu, c'est-à-dire que si c'est la volonté de Dieu qu'il se taise et qu'il ne parle plus, à ce moment-là, il obéira. Mais inversement, si Dieu veut qu'il chante le monde et les rivières qui bouillonnent, je ne sais plus exactement quels sont les termes, à ce moment-là, il le fera.
Et que les collines se réjouissent oui, cette question aussi qu'il dit à un moment, je ne parle plus et ma voix quand même, elle est là. Et je disais tout à l'heure en aparté que c'est par là que se termine le livre de Job. Après avoir, non pas maudit, ça c'est Madame Monique Liszt-Cohen, cette poète et exégète juive, qui nous disait non, dans la Bible on ne blasphème pas, on ne maudit pas, mais on peut dire, on peut poser des questions à Dieu. Et dans cette pièce de théâtre qu'est Job, c'est Job qui s'adresse à ses trois copains, à ses trois amis, qui dit mais c'est parce que tu as fait le mal que Dieu t'a puni. Non. Dans le livre de Job, c'est bien cette question de s'en remettre au destin, au hasard. On retrouve peut-être Inch'Allah ou que ta volonté soit faite.
Oui, je suis content d'apprendre que c'est une référence au livre de Job. J'en suis pas plus surpris que ça parce que les références bibliques sont fréquentes chez Cohen. Oui, c'est une acceptation. Alors, je disais, c'est un homme qui va mourir, mais ça peut être aussi interprété comme la parole d'un artiste qu'on n'écoute plus et qu'on n'entend plus. Et il accepte. Il dit,
Mais il continue quand même.
Si on a besoin de moi, je serai là pour parler, mais si on ne veut pas m'écouter, je me tairai et je l'accepte.
Alors ça, c'est une question intime que je voulais vous poser pourtant en public. Et nous en avons parlé déjà. Nous connaissons la phrase de Karl Marx. Il ne s'agit plus de contempler ou de connaître le monde, foi et savoir, ou compréhension du monde. Mais, nous dit Karl Marx, il faut le transformer. Pensez-vous que l'artiste puisse transformer ? Et une question encore plus arrogante. Qu'est-ce que vous faites pour que le monde qui n'est pas toujours beau puisse être plus beau ? C'est une question que vous n'êtes pas obligé de répondre.
C'est J'y une crois. Question difficile. Non, c'est un peu la question... Je ne sais pas si c'est ce que vous sous-entendez par là, mais il y a souvent la question sur l'art engagé. Est-ce que oui. certains artistes expriment des idées ou des convictions politiques dans leur art ? Ce n'est pas du tout mon point de vue. Je pense que le domaine de compétence de l'artiste, c'est sa sensibilité, c'est de faire partager aux autres comment il ressent le monde, peut-être en faire ressentir les injustices éventuellement, si c'est le cas, mais ça n'est pas d'exposer une théorie ou de dire moi je pense si. Je trouve qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que les artistes qui nous assènent leurs croyances politiques.
Ou qui font de la propagande.
Oui.
Cultivons notre jardin, être en paix avec soi-même, c'est déjà un petit djihad ou un grand djihad, une lutte contre les sentiments mauvais qui nous habitent. Mais je vous posais la question, Charles, parce que la fin de cette poésie de Leonard Cohen nous a mis dans l'embarras quant à la traduction. Il s'agit de savoir où nous mettons la virgule, où nous mettons la pause, car si l'on traduit tous des enfants ici dans leur lambeau de lumière... Tous habillés pour tuer, ou bien si nous mettons la pause et la virgule, tous ces enfants, tous habillés, pour tuer cette fin de nuit.
Oui, 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 mais c'est effectivement une ambiguïté. C'est pas rare chez Cohen, c'est pas rare chez les poètes en général, qu'il y ait plusieurs lectures possibles. Et effectivement, l'avant-dernier vers, c'est tous habillés de lambeaux de lumière. Alors, c'est beau cette image, les hommes habillés de lambeaux de lumière. C'est-à-dire qu'on a un peu de lumière, mais pas toute la lumière.
Il y a la force en nous, mais il y a des forces démoniaques.
Voilà, et il y a encore la nuit.
Et il y a encore la nuit.
Alors, all dressed to kill. Et la phrase suivante, « and end this night », et « finir cette nuit ». Alors, est-ce qu'on est prêt à tuer et en terminer avec cette nuit ? Moi, je lis ça plutôt comme ça, c'est-à-dire, on est prêt, on a un peu de lumière avec nous, et on est prêt à en finir avec cette nuit. Dans son esprit, ça veut dire à quitter cette vie pour aller vers de la lumière. Je l'interprète comme ça.
C'est beau. Mais... Et c'est aussi, puisque je demande à tout le monde... quand il y a un dialogue, quelles sont les œuvres qui les habitent. Et vous venez de lire un livre de 600 pages de A.G. Jacobs, et vous vouliez nous expliquer, nous parler de ce journaliste new-yorkais de 35 ans qui a, dites-nous, en fait, passé une partie de sa vie à vouloir vivre... comme la Bible le dit, peut-être.
Oui. c'est quand vous m'avez proposé de m'inviter à cette émission, il se trouve que j'étais en train de lire ce livre, qui est très intéressant, qui m'a amusé d'une part, parce que c'est écrit dans un style humoristique.
Redites le titre, oui.
Alors le titre, c'est « L'année où j'ai vécu selon la Bible ». Alors, il y a un sous-titre qui n'est pas sur l'édition française, mais qui est sur l'édition anglaise. « L'humble quête d'un homme qui cherche à suivre la Bible aussi littéralement que possible ».
Cela va intéresser nos amis auditeurs de Radio Présence. Mais attention, nous frisons parfois le blasphème ou en tout cas la caricature. La Bible, illusion monumentale.
Alors lui, Jacobs, lui il se présente comme vous l'avez dit peut-être, comme
agnostique.
Un agnostique, un produit typique d'une culture urbaine et branchée, parfait new-yorkais, élevé loin de préoccupations spirituelles. Mais c'est un homme curieux et au départ, il se pose quatre questions. D'une part, il constate que 85% des habitants de notre planète croient en Dieu. Il se dit, est-ce que je suis en train de passer à côté de quelque chose d'essentiel ? Une question. Deuxième question, est-ce que la pratique de la religion pourrait me rendre meilleur ? Question de morale, de vertu. Troisième question, les fondamentalismes religieux occupent une part importante de l'actualité politique, que ce soit l'islamisme, le judaïsme orthodoxe en Israël ou l'évangélisme chrétien aux États-Unis. De quoi s'agit-il exactement ? Qu'est-ce que c'est que le fondamentalisme ?
Et enfin,
quatrième question, une question très pratique. Il vient d'avoir un enfant et il se demande, est-ce que je dois l'élever dans une tradition religieuse ou pas ? Alors, Jacobs n'est pas un intellectuel. La méthode qu'il adopte, c'est de, au lieu d'étudier les dogmes ou la théologie ou l'histoire, il essaye de suivre les préceptes énoncés dans la Bible.
Oui, mais 700 règlements.
Et voilà, voilà. Alors, il commence par lire la Bible. Lire la Bible, quelle Bible ? Parce qu'il découvre qu'il y en a, alors j'avais noté ça, entre 3000 et 7000 en édition anglaise. Bon, donc, il demande conseil. Il s'entoure d'un petit comité d'experts, qui sont des amis ou des amis d'amis, etc. C'est aussi bien des juifs que des chrétiens. Oui, il faut dire que Jacobs, et bien qu'il soit agnostique et qu'il n'a pas de culture religieuse, est quand même d'une famille juive. Donc, c'est un point de départ. La petite tradition qu'il a, c'est quand même une tradition juive. Voilà. Donc, il s'adresse à des juifs, à des chrétiens, qui le conseillent pour le choix de sa Bible, etc. Il en lit une vingtaine quand même, parce que c'est un lecteur effréné. Et il note toutes les règles de vie qui sont mentionnées. Il en dénombre plus de 700. Et alors le livre est amusant, c'est quelqu'un qui écrit avec humour, qui ne se prend pas du tout au sérieux, et c'est un voyage à travers l'univers du fondamentalisme biblique aux États-Unis. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'aux États-Unis il y a un nombre de sectes, Je ne prends pas secte dans le mot. Dans
c'est
le
très sens. Positif aux États-Unis, c'est un groupe.
Voilà, c'est un petit c'est groupe religieux minoritaire. Voilà.
Oui,
oui. Donc il y a les juifs ultra-orthodoxes, les samaritains, ça existe encore, il y en a quelques-uns en Israël, des samaritains.
Oui, oui, oui.
Les amish, les évangélistes, les créationnistes. Alors il y en a un que j'aime bien, c'est les Red Letter Christians. Alors, je ne sais pas si ça existe en France. Donc, c'est les chrétiens des lettres rouges. Et en fait, eux, ils ont pris une édition de l'Évangile qui doit être courante aux États-Unis, où toutes les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Et
oui,
eux,
oui.
Ils n'obéissent qu'à ces phrases-là. Le reste, ils ne veulent pas en entendre parler.
La religion, c'est ce qui, en fait, relie ou oppose les hommes. Mais la religion, c'est aussi la relecture des textes dits sacrés.
Oui, oui.
Alors, en fait, notre entretien arrive à sa fin. Nous avions dit que nous aimerions terminer, comme notre première conversation, par cette phrase de François Cheng, où, la méditation sur la beauté, hein, toujours passée, rappelle un paradis perdu. Et toujours nouveau appelle un paradis promis. Nous sommes en plein dans la période du coronavirus. Nous sommes devant une difficulté de la planète ou des virus qui attaquent certains, qui fragilisent les autres. Mais je voulais vous laisser conclure avant de redire une parole du rabbin Jésus de Nazareth. La bonne nouvelle, c'est que les aveugles voient. Et vous êtes quelqu'un qui donne à voir la beauté des poèmes.
Oui, pour finir sur François Cheng, il a aussi un commentaire très intéressant sur la beauté. Il dit que la beauté vient toujours comme une surprise. La beauté vient à un moment où on ne l'attend pas. C'est-à-dire que même quelque chose, un tableau qu'on a, un bon tableau justement, c'est peut-être ça qui fait le bon tableau, un tableau qu'on a déjà vu 1000 fois, on le revoit une fois de plus et on a l'impression de voir quelque chose de nouveau. Ça peut être une personne aussi, qu'on aime, on la voit toujours comme quelqu'un de nouveau.
Nous mettrons vos références pour que les auditeurs qui vous ont entendu aient plaisir à venir vous voir. Merci Charles pour cet entretien et merci aussi à Christophe pour l'enregistrement.
Merci.